en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Jean-Marie Roy, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 12 novembre 1998. Jean-Marie Roy, écrivain et journaliste, qui conjugue de manière particulièrement créative un sentiment tragique de la vie, un sens aigu de sa propre fragilité, un goût de l'actualité mis en perspective par sa passion de l'histoire, et le courage, lui, homme de raffinement et de courtoisie, le courage de dire non à l'inacceptable au risque d'être renvoyé brutalement d'ici ou là. Jean-Marie Roy, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Jean-Marie Roy, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Alors d'abord, je n'aime pas beaucoup le mot « carrière », parce qu'il me semble tout à fait inadapté à ce que je suis et à ce que j'ai cherché à faire. Moi, je suis un homme de passion, avec tout ce que ça peut comporter, de choses justes et de choses injustes, de vérité et d'erreur. Et donc, j'ai eu le sentiment d'avoir été béni et d'avoir eu des anges gardiens qui m'ont permis que ces passions deviennent des activités et de pouvoir vivre de mes passions. Et cette passion fondamentale, ça a été pour moi d'écrire des romans. Parce que je suis surtout un romancier, même si je peux écrire des essais ou des biographies ou d'autres choses, je suis un romancier. J'ai une conception romanesque de la vie et donc je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir poursuivi une carrière, même si on ne peut pas être à l'Académie sans l'avoir un peu désiré, même si on ne peut pas avoir eu des prix littéraires sans les avoir un peu désirés. Je ne cache pas mes ambitions. Bon. Mais néanmoins, ce n'était pas du tout dans une perspective de carrière parce que j'ai une sorte de maladie qui fait que je ne peux pas capitaliser mes petits succès, et que, disons, ils s'annulent, vous savez, ils s'autodétruisent. Et une fois que je les ai obtenus, finalement, je reviens, le compteur se remet à zéro, et j'ai toujours l'impression que c'est la première fois. Un peu comme dans le domaine amoureux, eh bien, on a toujours l'impression qu'au fond, l'expérience du passé, on n'a pas capitalisé, et j'ai toujours l'impression que je commence, que je débute. Alors, vous me demandez quel a été le moment essentiel. Eh bien, il n'y a absolument pas d'hésitation de ma part. Le moment essentiel, ça a été une date. Ça a été 1974. Ça a été la publication de mon premier livre, mon premier roman, qui s'appelait « La fuite en Pologne ». Et vraiment, je suis sorti d'un marasme épouvantable. J'avais 30 ans. C'était 10 ans après avoir écrit mon premier roman qui avait été refusé par 13 éditeurs. Et pendant toute cette période...
Il y en avait eu un second aussi refusé, après.
Oui, il y en a eu un second refusé. Et donc, je suis sorti de ce marasme épouvantable où j'avais le sentiment de ne pas exister, de n'avoir pas l'existence à laquelle j'avais droit. Voilà, il y avait une terrible injustice. Je me disais, je ne peux pas être moi-même tant que je n'ai pas écrit un livre qui est publié. Parce que c'est là le mystère, on pourrait croire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Et on ne devient vraiment écrivain que le jour où ce livre est publié. Et si injuste que ça puisse paraître. Mais néanmoins, en tout cas pour moi, c'était ce critère qui n'est pas seulement un critère social. C'est que finalement, le jour où un livre est publié, on rentre dans la confrérie, on rentre dans la chevalerie des écrivains. Et c'était mon but. Et vraiment, à ce moment-là, il n'était pas question de prix littéraire, alors encore moins d'académie ou de quelque perspective que ce soit. C'était vraiment un absolu, être publié, publier un livre, et si possible que ce livre mérite d'être publié et quelques qualités. Mais c'est un problème secondaire, parce qu'au fond, je crois que le jugement qu'on peut avoir sur soi-même, eh bien, ça appartient au lecteur. Et qu'un auteur, ben, il fait de son mieux, de toute façon. Il se bat, il vit dans l'angoisse. il s'efforce de donner le meilleur de lui-même. Mais donc, c'est incontestablement vraiment la date.
1974. Alors, il y a quelqu'un qui vous a donné un coup de pouce très sérieux, là, c'est Jean d'Ormesson.
Parce que, ah, je veux dire, non, il ne m'a pas donné de coup de pouce dans ce sens où, où...
C'est quand même lui qui, le premier, vous a dit, si je suis bien informé, vous avez du talent, vous serez un écrivain.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, de ce point de vue-là, oui. Mais disons, il n'est pas intervenu dans la publication, il n'est pas intervenu dans le... Il m'a aidé, on pourrait dire, il a été un de mes... Puisque je le connaissais depuis l'âge de 18 ans, et puis je l'ai retrouvé plus tard, voilà. Et en effet, il aimait bien les articles que j'écrivais, et il y a eu d'autres personnes qui m'ont aidé, même si Jean d'Ormesson a eu tout au long de ma vie un très très grand rôle, joué un très grand rôle. C'est Michel Déon, c'est l'éditeur Roland Lannenbach, qui dirigeait la table ronde, plus tard Blondin, Antoine Blondin. Néanmoins, vous voyez, j'admets le rôle considérable qu'a pu jouer dans ma formation intellectuelle, comme modèle, quelqu'un comme Jean d'Ormesson. Néanmoins, je crois que, si vous voulez, si j'ai réussi à publier ce livre, c'est quelque chose qui m'appartient. Voilà. C'est peut-être la seule chose qui m'appartienne, c'est d'avoir lutté, vaincu, au fond, toutes les résistances intérieures, toutes les résistances psychanalytiques qui faisaient que j'écrivais de très mauvais livres et que j'ai réussi à en écrire un qui était moins mauvais, qui était peut-être même, je ne sais pas, qui était meilleur. Et ça, si vous voulez, c'est une lutte contre soi-même, c'est une lutte acharnée, dont je crois on n'a pas beaucoup d'idées, on s'imagine que c'est simple, qu'on travaille, il suffit de se mettre à travailler et que les choses, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, vous publiez donc La fuite en Pologne en 1974, et là, ça s'enchaîne, reconnaissance du milieu littéraire, succès public, prix littéraire, puisque à 33 ans, vous avez le prix Interallié pour Les Feux du Pouvoir, à moins de 40 ans, avec Avant-guerre, vous avez le prix Renaudot. Comment expliquez-vous ce succès? Est-ce qu'on peut dire, ça tient au fait que tout à coup, il y avait quelqu'un qui osait s'afficher comme un vrai romantique à une époque où il y avait des contraintes intellectuelles terribles qui pesaient sur le roman, cette espèce de chape du nouveau roman là, qui était encore là. Et vous, vous étiez à l'inverse de ça. Tout à coup, le cœur était là, il parlait en souffrance en plus.
Explication, si vous voulez. Moi, je crois aux protections, je crois aux anges gardiens, et je crois qu'à chaque fois, il y a eu une... Vous savez, moi, je ne mythifie pas les prix littéraires. Les prix littéraires, c'est vraiment... Il peut y avoir des livres avec du talent qui sont couronnés, je ne le dis pas.
Néanmoins,
les prix littéraires, c'est quand même... Il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Moi, je me souviens d'avoir eu au 13e tour le scrutin, le prix Renaudot, donc en face de Raymond Abelliot, qui était un magnifique écrivain. Donc, vous voyez, il y a une chance. Il y a une question de chance. Et puis, il y a une question qui est liée, comme toute forme de succès littéraire, qui est liée à l'époque. Et c'est possible, alors, en effet, que à la fois, disons, ce que j'évoquais, c'était sous une forme assez classique, finalement, une forme de romantisme, c'est vrai, qui pouvait plaire. En tout cas, c'était des livres, disons, lisibles, des livres qui étaient dans la tradition classique et qui étaient dans la tradition, au fond, stendhalienne et la tradition des hussards.
Alors, vous aviez entre-temps, donc en attendant ce succès, engagé une carrière de journaliste. Et curieusement, vous vous êtes fait remarquer, pas sur le terrain où on vous attendait, journalisme littéraire, vous a remarqué à la fois sur le terrain politique et sur celui des grandes enquêtes. Et on est un peu étonné qu'un homme comme vous, en réalité, ait réussi à soulever des scandales industriels importants dans des journaux de droite. À quoi tenait cette audace?
Alors, j'ai découvert le journalisme parce que mon premier roman avait été refusé et qu'il fallait que je vive. Et disons, ça a été un mariage de raison avec le journalisme. Je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose, il faut bien que je vive en attendant de pouvoir publier un livre. Et puis, ce mariage de raison est devenu un mariage d'amour parce que j'ai découvert dans le journalisme qu'on pouvait être du côté des malheureux, du côté des gens qui étaient exploités, du côté... Je ne parle pas d'une... forcément d'une exploitation en termes politiques. Mais je dis, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui sont victimes de l'injustice et qui n'ont pas droit à la parole. Et je me suis rendu compte qu'au fond, comme journaliste, on pouvait être leur porte-voix. Et c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a plu. Et même si je m'aperçois aujourd'hui que c'est une tradition littéraire, que c'est une tradition... Il y a eu des gens qui ont mené ce type de combat... comme Voltaire, comme Victor Hugo. Enfin bon, je crois que c'est une tradition française de mettre sa plume au service des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, ou que ce soit Camus aujourd'hui dont on parle, ou Mauriac.
Et, oui, Bernanos.
Oui, et mon premier article, ça a été, au fond, un article important, je l'ai remarqué, et ça a été sur l'affaire Gabriel Russier, avant son suicide, et donc... Et puis ensuite, ça s'est enchaîné, et en effet... Mais au départ, si je me suis attaqué aux compagnies pétrolières, c'était parce qu'il y avait une victime, il y avait un revendeur marseillais qui avait été ruiné par ces compagnies. Et donc, c'est plutôt du point de vue de l'homme meurtri qui a été victime de l'injustice. C'est comme ça que je suis parti dans ce type d'affaires. Et puis, je me suis rendu compte à ce moment-là de la difficulté qu'il y avait dans les journaux à ce journalisme d'investigation. Et puis surtout, je dois dire, c'est pas tant la difficulté que j'ai rencontrée. J'ai obligé de quitter le Figaro une première fois. C'est pas tant cette difficulté que j'avais le sentiment que ça m'arrachait, au fond, parce que ces enquêtes étaient très minutieuses, de faire très attention, et ça m'arrachait à l'essentiel qui était d'écrire des livres. Et donc, c'est autant parce que je ne pouvais pas mener les deux de front que j'ai choisi un journalisme qui requérait moins de temps, qui est le journalisme littéraire, dans lequel j'ai mis beaucoup de passion, mais qui me permettait d'allier plus facilement l'écriture d'un livre et l'activité journalistique.
Donc vous avez associé ce travail de romancier et le travail de journaliste comme beaucoup d'autres. Hein. On parlait tout à l'heure de Camus, Kessel, Bernanos, Mauriac. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que votre métier de journaliste a apporté à votre métier d'écrivain?
Si vous voulez, c'est difficile de dire s'il y a eu, une influence. Moi, j'adore la vie. J'adore la vie et je suis quelqu'un en émerveillement devant la vie, devant les rencontres. Je crois que simplement le journalisme a permis de faire énormément de rencontres, de voir énormément de gens, d'être dans des situations, et de faire des expériences que je n'aurais jamais pu faire si j'étais resté dans ma tour d'ivoire. Vous voyez. Par exemple, au moment de l'affaire Omar Radad, où j'ai été condamné à une très lourde amende, à 100 000 euros, je suis passé devant un tribunal. Eh bien, ça, je crois que c'est quelque chose... Tant qu'on n'est pas passé devant un tribunal, eh bien, on ne peut pas savoir ce que c'est. On ne peut pas savoir... On ne peut pas partager avec les victimes ce sentiment de cette machine qui vous écrase, qui... Alors que moi, j'étais déjà à l'académie, j'étais pas quelqu'un qui était le pauvre type qu'on a ramassé et qui est...
Oui, mais vous étiez un symbole, c'était un peu, on pourrait dire, pour prendre des grands mots, c'était Antigone face à Créon, non?
Oui, je ne sais pas ça, si c'était Antigone. En tout cas, j'avais le sentiment, en même temps, d'être socialement favorisé, mais même socialement favorisé, qu'est-ce que c'était dur d'avoir affronté la justice. Donc, si vous voulez, ça a élargi mon paysage, ça m'a permis d'avoir de la compassion, de comprendre. Alors, bien sûr, j'avais lu beaucoup de livres sur la justice, j'avais lu Tolstoï, Résurrection, on voit le système. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de passer devant un tribunal et de voir à quel point vous pouvez être broyé, que quel que soit vous soyez coupable, innocent, ça n'a aucune importance. Voilà. Je prends cet exemple, la machine est là. Je prends cet exemple pour vous dire à quel point la vie m'a enrichi, la vie que j'ai connu un peu plus par journaliste, parce que le journalisme a élargi mon horizon. Il m'a fait voir énormément de gens différents. Et ça m'a permis d'observer la société. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un à me dire « Voilà, je ne verrai que tel type de personne. » Non, moi, je vois dans la société, je vois tout. Ça tient peut-être à mes origines, qui étaient à la fois des origines de grands bourgeois, et qui étaient en même temps des artistes, qui étaient des peintres. Et en même temps, j'étais élevé par des pêcheurs de Noirmoutier qui n'avaient pas d'eau, ni de gaz, ni d'électricité. Donc je me suis trouvé toujours en porte-à-faux entre deux mondes, un peu boiteux, comme ça, entre un milieu très populaire que j'aimais beaucoup et ce milieu de grands bourgeois artistes que j'aimais également beaucoup. Donc je crois que je n'appartiens au fond à aucune société. J'étais très frappé. Vous savez, il y a un mois, au moment du décès de Claude Lévi-Strauss, j'ai fait son éloge funèbre à l'Académie. Et j'ai découvert, au fond, à quel point je cherchais pourquoi je me sentais si proche de Lévi-Strauss, alors que moi, j'étais un mauvais élève. Lévi-Strauss a été un homme à la fois très brillant dans ses études et très brillant dans tous les domaines, et dans le domaine de la pensée. Et j'ai découvert, dans un de ses livres, qu'il parlait de, au fond, de cette terrible conversion qu'il avait dû faire quand il est parti chez les Bororo. Finalement, il est obligé d'oublier complètement l'univers universitaire dans lequel il avait vécu. Et ensuite, quand il est revenu, justement, dans ce monde universitaire, ou ce monde de l'académie, il est obligé à la fois d'oublier également le monde des Bororo, et que finalement, il était très seul, et il n'appartenait plus à aucune société. Et bien, j'ai trouvé quelque chose de très fraternel dans cette vision, et moi-même, je me suis senti vraiment n'appartenant finalement à aucun monde, et cherchant justement dans cette diversité, en essayant de trouver une réponse à des questions, finalement des questions humaines. Voilà.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui sur votre domaine d'activité ou sur ce que vous faites actuellement ?
Alors, vous savez, sur ce que je fais actuellement, c'est toujours double parce que je continue une activité de journaliste politique, d'analyste de la situation politique. Et en même temps, j'essaie de continuer à la fois ma vie d'écrivain, sous des formes très différentes d'ailleurs, parce que je suis passé du roman à la biographie, de la biographie à des souvenirs, et également au théâtre. Donc c'est assez varié. Et à chaque fois, j'ai l'impression de, à travers toutes ces modes d'expression qui peuvent être différents, au fond, d'essayer de chercher à définir une vision de la vie. Et bien entendu, je retrouve toujours les mêmes thèmes récurrents. Voilà. Donc c'est la partie, disons, peut-être, en tout cas, cette recherche est la partie la moins visible, parce que de temps en temps, il y a un livre qui sort, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui ne se font, notamment dans les pièces de théâtre, des pièces de théâtre que je peux écrire et qui ne sont pas jouées. Et puis, je mène cette vie donc, d'analyse politique qui me fait rencontrer beaucoup d'hommes politiques. Et je l'aime également, bien qu'elle ne soit pas de la même nature. Je veux dire, je pourrais m'en passer. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas aussi consubstantiel, qui n'est pas aussi essentiel pour moi que le fait d'écrire, qui fait partie de mon identité. Néanmoins, je trouve que c'est formidable de vivre son époque. Je trouve formidable de vivre sous Sarkozy aujourd'hui, de voir... je dis sous Sarkozy parce que c'est lui. Hein, j'aurais vécu aussi bien sous Ségolène Royal. Ce n'est pas la question. Hein, c'est pas un jugement de valeur. Mais je dis, voilà, de vivre son époque avec ses qualités, ses défauts, le monde d'Internet, le monde qui change, cette société qui est à la fois extraordinairement en évolution, en mouvement, et qui est inquiétante. Et puis, en même temps, cette persistance de la morale. On a l'impression que c'est curieux, on vit toujours avec un désir de rétorsion, comme par exemple le dernier événement qui est la burqa. Pour moi, la burqa, puisque je me suis prononcé sur cette question, ça me paraît finalement le revers de l'intransigeance et de l'intolérance, d'une certaine forme d'intégrisme islamique. Je crois qu'en Afghanistan, les intégristes avaient imposé un certain nombre de choses, ils édictaient sans cesse des lois, et nous-mêmes, hélas, nous nous mettons à leur ressembler en interdisant des choses. Je crois que l'interdit, multiplier les interdits, l'interdit du voile, l'interdit de la burqa, je crois que c'est quelque chose qui diminue la liberté. Je crois que moi, je suis pour vraiment, de ce point de vue-là, un libertaire. Je suis un libertaire. Je trouve que chacun doit pouvoir s'habiller comme il veut. Chacun, ça ne me gêne absolument pas de savoir qu'il peut y avoir des gens qui éprouvent le besoin de se masquer le visage. Et puis après tout, comme l'a dit très justement M. Morin, qui est le ministre de la Défense, qui je trouve a pris des positions très intelligentes là-dessus, il a dit finalement, qu'est-ce qu'on fera des gens qui débarquent à Orly, qui viennent de l'étranger avec une burqa ? Est-ce qu'on va les remettre dans l'avion ? Et il a dit cette chose que je trouve encore beaucoup plus remarquable et qui rejoint un autre de mes combats. Il a dit, c'est beaucoup plus choquant, la prostitution est beaucoup plus choquante que la burqa. Et pourtant, ça ne choque personne. Et en effet, la prostitution et tout le mal qui l'accompagne, pour reprendre les termes de la résolution de l'ONU en 1946, tout le mal qui l'accompagne, c'est-à-dire les viols, la maltraitance, l'esclavage moderne que représente la prostitution, ça ne choque personne, et c'est une atteinte bien plus grande à la femme que le port de la burqa.
Là, vous venez de commencer à répondre à la troisième question, donc regard sur notre monde et notre société. Vous parliez de votre intérêt pour la politique, et vous citez dans votre dernier livre, cette opposition qui s'appelle La vie, vous citez cette phrase extraordinaire de Napoléon, « La politique, c'est la destinée ». C'est cela qui vous intéresse dans les hommes politiques ? C'est
oui.
Cette dimension
Oui, je dois dire, Napoléon a bien vu qu'au fond, il y a eu une transformation radicale avec la Révolution, le siècle des Lumières. C'est qu'on est passé de l'époque de la Providence à une autre époque rationnelle, rationaliste. Et on a transformé cette Providence ou ce fatum grec a été transformé et c'est la politique. C'est la politique qui est finalement la destinée. Et on le voit bien parce qu'au fond, qu'est-ce qui a dessiné le XXe siècle ? C'est la politique. C'est extraordinaire de voir à quel point les malheureux qui vivaient, selon qu'ils vivaient en Allemagne ou au Japon, ont vu leur vie dévastée. Soit qu'ils étaient juifs, soit qu'ils étaient tziganes ou homosexuels. Subitement, leur vie a été dévastée par la politique. Et la politique a eu une action sur un grand nombre de personnes, quand on pense aux dizaines de millions de morts de la dernière guerre, ou même pendant la guerre de 14. On a vu ces formidables atteintes qui pouvaient toucher non seulement les soldats, mais aussi les populations civiles. Donc c'est un siècle qui a été complètement, disons, malaxé par la politique.
Mais on continue toujours à y croire. Regardez l'élection d'Obama, c'est une élection... on attendait un sauveur, là.
Mais je crois que nous avons introduit dans la politique des valeurs religieuses. Je crois que notre époque terriblement déchristianisée, terriblement incrédule, d'une certaine façon... qui ne va plus à la messe. Mais elle est restée très religieuse. Dans son fond, il y a finalement, plus on a repoussé le religieux des églises, plus il s'est mis à s'insinuer un peu dans tous nos réflexes.
Autrement dit, Obama, ce serait un Christ noir.
Oui, bien sûr, je crois. Non, je crois à cet élément christique. Je crois vraiment profondément qu'on a eu le sentiment qu'il y avait une mission qui avait été donnée à Obama. Et quand nous avons... Je dirais quand nous avons voté pour lui. Parce que j'ai le sentiment que tout le monde sur la planète a voté un peu pour Obama. C'est-à-dire que c'était une révolution, pas seulement une révolution parce qu'il était noir. Je crois que ça aurait posé moins de problèmes peut-être en France qu'aux États-Unis. Mais le fait qu'il était noir montrait qu'on pouvait échapper justement à une sorte de destinée. On pouvait... être finalement surmonté à un handicap, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment un handicap fondamental. Mais ce n'est pas seulement pour cette question, le fait qu'il était noir, ça montrait que l'Amérique changeait. Mais sa personne elle-même, dans sa personne, il y avait un contenu moral, un contenu d'idéal, qui a fait que vraiment les gens se sont mis à considérer qu'au fond, ils étaient citoyens du monde, et dans cette citoyenneté du monde, ce qui allait arriver à Obama était très important.
Alors, on a ce constat-là au moment même où se déclenche une crise internationale très grave, sur laquelle vous avez un jugement encore plus pessimiste que la plupart des observateurs, car vous dites qu'en réalité, cette crise, elle vient de très très loin, d'au moins un siècle, et que c'est l'ensemble de nos valeurs qui sont remises en cause.
Oui, je crois que nous sommes en effet dans une... crise de civilisation, Freud l'avait dit, vous savez, Solzhenitsyn l'a dit aussi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas un penseur qui n'ait pas pris conscience de cet extraordinaire malaise.
Oui, mais vous mettez en cause la modernité elle-même.
Écoutez, ce mot de modernité, il est récent. Bon, maintenant, c'est un peu le critère absolu de la qualité des choses. Bien qu'on passe son temps à être insatisfait de notre époque, c'est vrai à dire que notre époque est quand même... pas aussi extraordinaire que ça, avec beaucoup d'erreurs. Et en même temps, c'est le critère absolu, notamment en matière d'art. Et vous savez, moi j'aime beaucoup là, Salvador Dali, qui était quelqu'un de très original, d'un peu anarchiste. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Les cocus du vieil art moderne ». Et il commence son livre par cette phrase « Ô peintre, ne te préoccupe pas d'être moderne, tu le seras, hélas, forcément. » Eh bien, il voulait dire par là que, évidemment, il y avait une déchéance de l'art depuis le XVIe siècle. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, on avait considérer que depuis les Grecs, il y avait aussi une déchéance. Et les Grecs eux-mêmes, par rapport aux Égyptiens, peut-être qu'ils considéraient qu'il y avait une déchéance. Donc, cette idée de la modernité, dans aucun domaine, je ne crois pas que ce soit, pour moi, enfin, en tout cas, ce n'est pas un critère. Ce qui me paraît, je crois à des qualités, si vous voulez, à des vérités universelles. Et il me semble que sur bien des points, eh bien, il y avait plus de sagesse, parfois au 18e ou au 19e. Et notre époque n'a pas le monopole de la sagesse ni de la vérité. Ça, je ne crois pas. Je crois
que personne n'y croit, ça, non ?
Il y a quand même une sorte de croyance. Vous savez, il y a eu la croyance dans la science. Et là, il y a quand même encore une croyance dans une forme de progressisme. En se disant, nous nous améliorons, nous nous perfectionnons en art, en morale, en conditions de vie, comme on s'améliore en science et en médecine. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas le même mouvement. Ce n'est pas le même mouvement, c'est quelque chose de différent. Et que c'est certain que nous avons des améliorations en médecine et certainement en science. Je ne crois pas que nos mœurs et les arts puissent suivre. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce qui est dans le passé est forcément mieux, non. Non, je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, être de son temps. Et moi, je suis très curieux de mon époque. Et je n'aimerais pas refuser l'art contemporain. Bon, il y a des choses dans l'art contemporain, mais vous savez, dans le 19e, il y a des choses aussi qu'on peut ne pas aimer. Hein, donc, dans toutes les époques, je crois que c'est important de garder une fonction critique, de pouvoir aimer. Et si on aime, il faut pouvoir aussi ne pas aimer. Voilà, je crois que c'est important.
Alors, dans cette crise donc actuelle que vous décrivez comme très, très profonde, vous pensez que la France peut encore jouer un rôle spécifique tel que celui que le général de Gaulle envisageait pour elle ? Une sorte de...
Alors là, vous évoquez une question qui est très difficile. C'est la crise française. Je crois qu'elle est particulière parce qu'on l'a bien vu à propos de l'identité nationale. On a vu que ça partait dans tous les sens, que cette question qui paraissait simple dans son énoncé, finalement, était extrêmement complexe. Parce que la France est un pays d'une extraordinaire complication et qui est contradictoire. Je crois que on ne peut pas comprendre la France si on ne s'aperçoit pas à quel point nous sommes ambivalents et contradictoires, c'est-à-dire que nous sommes à la fois monarchistes et républicains. On a un héritage de la monarchie qui est considérable, mais en même temps, on est républicain. On est à la fois catholique et en même temps athée. On a les deux héritages. On a l'héritage extraordinaire sur le plan esthétique du legs de l'Église qui nous a offert quand même pendant toute une époque à apporter un mécénat auprès des grands artistes. Mais en même temps, on est très laïque. Enfin, je crois que dans tous les domaines, on est très militariste et en même temps on est très pacifiste. On est un peuple guerrier, mais en même temps un peuple où il y a énormément de pacifistes. On est à la fois très français, mais on a une ambition mondiale. On est très attiré. La France est un pays extraordinairement attiré, contrairement à ce qu'on dit, par l'étranger, par tous les explorateurs français, tous les gens qui ont été, que ce soit dans le Maghreb ou en Extrême-Orient, toutes les écoles d'Extrême-Orient, les écoles en Grèce... toute l'archéologie, enfin, il y a eu un formidable élan vers l'étranger, et en même temps, une curiosité, et en même temps, très français, on aime le petit village, voilà. Donc, toutes ces contradictions, c'est très difficile, à mon avis, de définir une France.
Mais est-ce que ces contradictions ne sont pas à l'image de la complexité de la vie, ne sont pas une richesse, en fait ?
Oui, c'est une richesse à partir du moment où c'est canalisé. On l'a vu, d'ailleurs, dans toutes les périodes de l'histoire de France, c'est que ce peuple, qui est extrêmement divisé, et qui peut être complètement paralysé par ses contradictions, il faut qu'elle trouve eh bien, un chef qui la dirige vers un idéal commun.
Et ça nous ramène au général de Gaulle. Quoi.
Alors oui, à Napoléon.
Napoléon.
Au général de Gaulle. Je crois qu'il faut quelqu'un qui ait ce pouvoir de rassembler et de diriger vers un but. Et on l'a vu encore, à mon avis, c'est peut-être le dernier moment où on a le sentiment de la présence française, ça a été... au moment de la déclaration de Dominique Villepin à la tribune de l'ONU en déclarant que la France ne suivrait pas les Américains en Irak. Et cette déclaration, on a le sentiment que les Français étaient... toute l'histoire française était au fond derrière cette déclaration. Et il y a eu un moment d'émotion et un sentiment que, au fond, eh bien, on partageait toute une histoire, qu'on pouvait être républicain, catholique, athée, faut que tout le monde se retrouvait dans cette position. Et il me semble que c'est ce qu'on devrait rechercher, ce qu'on n'a pas assez recherché dans ce débat sur l'identité nationale. Il fallait, dès le départ, ne pas le poser de manière concrète et au niveau des préfectures, mais le poser au niveau intellectuel, au niveau culturel. Parce qu'au niveau culturel, ça permettait beaucoup plus de souplesse et ça permettait tout de suite de montrer que la France était porteuse de valeurs universalistes et qu'il fallait tout de suite parler de Romain Gary, de François Cheng, de Georges Semprún. Enfin, il fallait montrer à quel point les gens s'étaient convertis à la France. Et que s'ils s'étaient convertis à la France, ce n'était pas parce que la France était un pays comme les autres, un pays banal.
La grande phrase du général de Gaulle, la magistrature de la France est morale, notre pays se distingue des autres en ce sens que sa vocation est plus désintéressée, plus universelle que celle d'aucun autre. La France, chaque fois qu'elle est elle-même, est humaine et universelle. La France est la lumière du monde, son génie est d'éclairer l'univers. C'est ça, c'est cette idée-là.
Oui, c'est là, et celle qu'il a reprise en disant qu'il y avait un pacte entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Ça, je crois que c'est au fond dans le surmoi français. C'est pour ça que la France est un pays un peu particulier. Et ça, je ne vais pas faire de chauvinisme, non, ça serait ridicule, mais je l'ai vu parce que je le vois quand je parle, par exemple, à l'Académie avec François Cheng, ou quand je lis Romain Gary, quand je lis Ionesco, je veux dire, ces gens qui sont venus en France, qui se sont convertis à la France, qui ont voulu être français, eh bien, au fond, c'est ce qu'ils cherchaient. Ce n'était pas un pays, ce n'était pas des petites rivières et des châteaux ou un agrément de vie. C'était vraiment cet idéal, ce surmoi français, à la fois de liberté qui permet d'être à la fois soi-même, je crois que c'est très important, d'être à la fois, de rester soi-même tout en devenant un citoyen universel.
Quatrième question de notre série L'Essentiel, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps, avec la part de jeu que l'isolement d'un seul fait peut comporter?
Bien sûr, écoutez, la plus grande hypocrisie, je crois qu'il y en a beaucoup. On est dans une époque assez hypocrite. Alors, je crois qu'une des grandes hypocrisies, ça serait sûrement de maquiller les mots, de transformer les mots pour leur éviter de dire les choses véritables. C'est-à-dire, vous savez, comme on dit...
Les non-voyants et...
Voilà, les non-voyants, on a abandonné le mot concierge. Et alors, le pire, à mon avis, le pire de tout, dans cette sorte d'hypocrisie, c'est d'appeler un voyou un jeune. Ça, je crois que là, c'est le maximum dans la tartufferie. Voilà, dans la tartufferie, c'est de se masquer les choses, c'est cette politique de l'autruche qui consiste à se masquer les choses et en même temps à se mentir à soi-même. Et je crois que c'est très mauvais, une société qui se ment à elle-même. Je crois qu'il faut admettre qu'il y a des voyous et puis il y a des jeunes. Mais alors, comment ne pas distinguer quelqu'un qui a une vie, je ne veux pas dire normale, mais qui ne fait de mal à personne, qui poursuit des études ou qui fait un travail tout à fait honorable, et puis... quelqu'un qui va attaquer les vieilles dames, les mettre sous le même vocable, je trouve que c'est affligeant. Enfin,
vous n'avez pas peur, vous, du mot racaille, quoi?
Non, le mot racaille, non. Alors, je ne veux pas politiser ce débat. Mais disons, je crois qu'on doit appeler les choses par leur nom et les gens par leur nom. Je veux dire, c'est évident qu'un jeune, ce n'est pas un voyou. Un jeune, c'est quelqu'un. Il faut garder aux mots leur vérité. Je crois que cette espèce de mensonge qui se diffuse est mauvais parce que ça veut dire qu'on ne veut pas voir les choses en face. Et c'est très frappant, je crois, de notre société. Je crois qu'on est dans une société très sentimentale et ce que j'appelle un peu l'abbé pierrisation de la société, c'est-à-dire on veut tout moraliser, on veut pas voir qu'au fond, il y a quand même une violence qui est dans le monde. Une violence qui est dans les pays, et toute cette espèce de théorie du droit d'ingérence, je crois qu'il participe aussi à cette sorte d'angélisme qui me paraît quelquefois dommageable. Quelquefois dommageable. Et je prends un exemple. Il n'y a pas plus d'une semaine, il y a, vous savez, beaucoup de ce peuple qui a été très maltraité en Chine, qui sont les... Je vais peut-être mal prononcer le mot, mais Oïghours, je crois, eh bien, qui étaient réfugiés au Cambodge, et par une ONG. Une ONG les avait rassemblés, ils étaient une quarantaine de personnes, et puis les forces cambodgiennes de police sont venues les arrêter, tous au même endroit, et on les a renvoyés en Chine, où bien entendu, ou bien ils seront fusillés, ou bien ils seront condamnés à de lourdes peines de travaux forcés. Et d'une certaine façon, cette ONG, elle était, avec les meilleures intentions du monde, elle a rendu le pire service à ces hommes qu'elle prétendait défendre, puisqu'elle a fait semblant de les défendre, et puis au dernier moment, elle s'est montrée incapable de les défendre. Vous voyez ? Donc, il faut faire très attention dans ce sentiment d'illusion de sécurité que peuvent donner parfois les ONG. C'est arrivé également en Serbie, à d'autres occasions, je veux dire, où les gens avaient été rassemblés par les ONG ou par les forces de l'ONU, et puis ensuite, ça a permis aux forces serbes, en l'occurrence, mais ça a été rêvé dans tous les camps, de s'emparer de ces gens qui croyaient à une illusion de sécurité. Vous voyez ? Donc, il y a un danger à ne pas accepter et à croire que finalement, on peut, par les bons sentiments, lutter contre la violence et ce mal que contient l'histoire.
Cinquième question de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Alors, je crois que ce qui me laisse le plus d'espoir, c'est, je crois, cette... À la fois, je dirais deux choses. Dans le domaine, disons, général, c'est cette possibilité, quand même, toujours, de cet art qui se continue, cette littérature qui se poursuit, de ces peintres qui continuent à peindre. Je crois que ce désir d'embellir la vie me paraît être, si vous voulez, un très grand espoir. Moi, je trouve que le fait qu'il y ait toujours des artistes, qu'il y en ait toujours eu, mais qu'il continue à y en avoir, que des gens aient envie de s'exprimer, envie de donner un contenu spirituel à la vie.
La transfigurer, en quelque
sorte. Voilà, la transfigurer, je trouve ça, c'est pour moi une source d'espoir. Ce serait, un des éléments, pour moi, importants, je trouve que... Parce que ce qu'on ne voit pas, notamment dans la littérature, qui est le domaine que je connais le mieux, on a le sentiment que les écrivains sont des gens égoïstes, qui sont tournés vers eux-mêmes, et des moitrinaires. On parle beaucoup de ces gens de l'ego, des écrivains. Et en même temps, moi, ce qui me frappe dans la littérature, c'est quelle est la caisse de résonance, au fond, de tout ce qui a précédé. Moi, quand je lis quelqu'un comme Proust, mais aussi bien Aragon, je décèle, finalement, tout ce que ces gens ont lu, tout ce qu'ils ont synthétisé, tous les éléments qui ont été nécessaires pour arriver à former leur style. Et alors, c'est visible chez Proust, parce qu'on retrouve des éléments qui font penser à Balzac, et d'autres éléments qui font penser à Saint-Simon. Mais on pourrait le dire de tous les écrivains. On sent chez les écrivains qu'ils ne sont pas là par hasard, ce ne sont pas des générations spontanées, mais qu'au fond, ils sont issus d'une longue histoire de la pensée, de l'art et de la littérature. Et donc, c'est ça que je trouve formidable, c'est de se dire, à chaque fois, il y a une sorte d'échange de témoins. On apporte un écrivain, un jeune écrivain à 20 ans, d'une certaine façon, même s'il n'a pas lu tout le monde, il n'a pas lu Saint-Simon, il n'a pas lu le Carnéal de Retz. D'une certaine façon, il transporte avec lui tous ces hommes qui ont pensé avant lui. Et il est, au fond, une sorte de marqueur de tout ce qu'il a précédé sur le plan artistique.
Cette chaîne dont parlait Renan un peu. Dans
voilà, cette chaîne, moi, je trouve ça... Alors, c'est peut-être une conception, peut-être un peu à l'ancienne de la littérature. Maintenant, on croit beaucoup aux générations spontanées en matière artistique. Mais il me semble que, au fond, tout ce qui dure, tout ce qui a une véritable importance, bizarrement, les véritables expressions appelées à durer, eh bien, elles sont extraordinairement enrichies par ce qui les a précédées.
Le deuxième élément d'espoir ?
Alors, le deuxième élément, ça serait revenir à Obama. C'est vrai que je crois que sur le plan politique, il a apporté... Alors on peut le critiquer, bien entendu. On peut critiquer... le domaine de la politique est un domaine éminemment critiquable. Bon, parce que c'est avec le temps qu'on peut voir vraiment le bien des partagés, le bien du mal. Néanmoins, je crois que c'est formidable qu'il puisse y avoir en politique, notamment dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays... quand même pragmatique, un pays dont on peut, la critique qu'on peut lui faire, c'est qu'il était souvent tourné vers ses propres intérêts, notamment ses intérêts financiers. Et là, il y a eu un projet moral, il y a eu un projet de dialogue. Moi, je trouve que la politique, ça doit être avant tout le dialogue. Et c'est vrai que moi, je suis assez ému par le personnage d'Obama. Et il me semble qu'il pourrait, d'une certaine façon, qu'il réussisse ou ne réussisse pas, il a changé la politique.
Mmh. Il ne dit jamais « je », par exemple.
Il ne dit pas « je ». Et en même temps, il est très personnel. C'est quelqu'un qui est original. On a le sentiment qu'on a affaire à une personne morale, à quelqu'un qui n'agit pas comme les autres hommes politiques. Il y a quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que je crois qu'il restera, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, je crois qu'il restera une date dans l'histoire.
Sixième question de notre série L'Essentiel, très personnelle celle-là. Quel a été le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ? Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Monsieur, échec. Alors écoutez, vous savez, le plus grand échec, je crois que le plus grand échec aurait été que je ne puisse pas écrire, que je m'arrête d'écrire, ou que ce lien avec la littérature qui a été mon bouclier contre tout, contre le malheur, contre la perte des parents, la perte de l'amour.
Une vision très sombre de la vie aussi, hein, parce que quand on regarde les titres de vos livres, je cite par exemple « La blessure de Georges Laszlo »,« Ils ont choisi la nuit »,« Le cavalier blessé »,« La femme de proie »,« Le voleur de jeunesse »,« La noblesse des vaincus »,« Le goût du malheur »,« Nous ne savons pas aimer ». Tout ça, c'est quand même un catalogue.
Oui,
vous avez, pour reprendre la formule du Namugno, vous avez un sentiment tragique de la vie. Quoi.
Oui, c'est vrai. La littérature m'a fait échapper au désespoir. Et disons, le fait de pouvoir écrire me donne des moments de joie, des moments où je crois à la vie. Et bizarrement, quand même, dans mes livres, même si je ne veux pas dire que j'ai un désespoir gai, mais j'essaie d'avoir un peu d'humour dans le désespoir. Mais certainement, ça, je crois que c'est ce qui m'a permis d'affronter l'existence. C'est grâce à ce bouclier qu'est la littérature. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont l'échec. L'échec, c'est bien sûr l'échec amoureux, vous savez. Il y a cette phrase de Chateaubriand qui dit « Faites que la beauté dure, que la jeunesse reste, que l'amour ne se puisse lasser et vous reproduirez le ciel.
» Oui, alors dans vos livres, on est loin du compte. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la petite explication que vous donnez dans l'un de vos livres au détour d'une phrase de Romain Gary sur l'importance, dans l'échec de l'amour dans nos vies, du souvenir de la mère, cette phrase superbe de Gary.
Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais.
Ouais. Et vous pensez que c'est ça, en fait, qui est au cœur de cette...
Oui, c'est une vision un peu psychanalytique. Je crois qu'il y a ça. Je crois que la mère, qu'elle ait existé ou qu'elle n'ait pas existé, qu'on l'ait connue ou qu'on n'ait pas connue, c'est vrai que ça pose un problème pour les hommes. Mais il me semble qu'il y a tout un phénomène d'idéalisation de l'amour et on est toujours dans un tiraillement entre... le rêve et la réalité. Bon, c'est pour ça que pour les écrivains, c'est
c'est la vie.
Un terrible poison, l'amour. Parce qu'au fond, c'est à la fois une matière première de leurs livres, c'est à la fois un élément fondamental des romanciers. Est-ce que vous connaissez un roman qui ne soit pas un roman d'amour ? Ça n'existe pas. Il n'y en a quasiment pas. Et parce qu'au fond, le roman, c'est cette énigme de la destinée et cette destinée... elle passe forcément plus ou moins par l'amour. Donc il me semble que l'histoire de la littérature, c'est une longue interrogation sur comment réussir à aimer dans le rêve tout en aimant dans la réalité.
Alors ce qu'il y a de très étonnant, enfin de très original dans votre œuvre, où l'échec est présent en permanence, hein, comme la souffrance, comme la mort, comme l'amour malheureux, c'est cette idée qu'il y a une vraie noblesse dans l'échec. D'ailleurs, il y a l'un des titres de vos titres, hein, « La noblesse des vaincus », mais vous en avez fait presque un art de vivre de l'échec, une espèce de viatique.
Oui, il y a un très beau livre d'Anne Noël qui s'appelle « L'honneur de souffrir ». Vous savez, moi je crois, je ne suis pas très original,
Quand même.
Je crois que
en avoir fait vivre, un espèce de système comme
vivre,
ça.
C'est souffrir. vivre, c'est souffrir.
D'accord.
Mais en même temps, c'est merveilleux parce que ça prouve qu'on est un homme. Vous savez, quelqu'un qui n'aurait pas souffert, qui ne souffrirait pas, ça serait franchement quelqu'un de très ennuyeux. Ça serait quelqu'un... On n'aurait pas envie d'être l'ami de quelqu'un qui ne connaîtrait pas la souffrance. Il me semble que la souffrance, c'est ce qui nous relie, c'est notre religion, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Et moi, je dois dire, j'ai énormément appris de la souffrance. C'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup souffert, peut-être que je me suis un peu trop épanché dans mes livres, mais parce que j'ai toujours essayé de saisir cette énigme de la souffrance, que ce soit à travers la jalousie, à travers la perte des êtres aimés. C'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions, mais en même temps, c'est un formidable enrichissement de se dire qu'on va dépasser la souffrance. C'est pour ça, étrangement, même si je ne suis pas très pratiquant, très catholique pratiquant, j'ai le sentiment de la présence, et finalement, dans mes livres, d'une forme de christianisme laïcisé, si vous voulez, de christianisme sécularisé. J'ai le sentiment qu'au fond, il y a une recherche à la fois de quelque chose, une perfection chrétienne, si vous voulez, à travers des expériences amoureuses.
Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur un texte de Simon Leys, je vous le livre, hein, sur l'échec. C'est un texte sur Don Quichotte. Les gens qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter à la réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de leurs rêves échouent. Et c'est pourquoi le progrès humain est dû en définitive aux gens qui échouent. Étonnant, hein ?
Oui, moi, je me sens très proche de Simon Leys. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait dit, à propos d'un de mes livres, il m'a dit, vous avez des choses qui sont bizarres et qu'on ne retrouve jamais chez un auteur, c'est le romantisme et l'humour. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est
vrai.
Ça m'avait beaucoup plu, ce jugement.
Donc, vous parliez là du côté chrétien, même laïcisé, mais le thème de la mort est vraiment très, très présent dans vos livres. Moi, j'ai l'impression que ce que vous arrivez le plus à faire, c'est à l'exorciser d'une façon littéraire, en le faisant le thème central de votre œuvre, mais que vous avez beaucoup de mal à l'apprivoiser personnellement. Il y a une distinction, au fond. Il y a cette maîtrise de la mort à travers l'écriture, et puis, d'une façon personnelle, un déchirement, quand même. Même si l'amitié, quelque part, vient sauver tout ça. Enfin...
Oui, bien sûr. Vous savez, moi, je crois que ce qui nous sauve, c'est ou la foi, ou l'art. Et je rejoindrai là-dessus Malraux. Je crois que l'art permet, d'une certaine façon, de donner une solution à la vie. C'est qu'elle peut justifier la vie. Et j'aime beaucoup la phrase de Saint-Just qui dit « Ceux qui ne croient pas à l'immortalité de l'âme ne font que se rendre justice. » Moi, je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois qu'elle existe, que d'une certaine façon, comme le pensent ceux qui croient, mais il me semble que ce n'est pas possible que ces intentions d'élévation, ces intentions spirituelles qu'on retrouve dans le destin d'un Van Gogh, par exemple, où la présence spirituelle est tellement forte dans son art. Mais je dirais la même chose chez Aragon, chez beaucoup d'hommes qui sont pourtant des athées. Il me semble que l'esprit a quelque chose qui est fait pour durer. Il me semble, c'est mon sentiment, c'est le sentiment que j'ai de la vie, c'est-à-dire que ce qui est important, peut-être, pour affronter la mort, c'est de croire que l'esprit ne cesse pas. L'esprit a une vie, et cette vie continue à éclairer après nous.
Il nous reste 5 minutes, 7e et dernière question donc de cette série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Eh bien... Ma motivation essentielle, ça serait de, je l'espère, de continuer à chercher la vérité. On est, vous savez, détourné de la vérité dans la mesure où c'est vrai, un écrivain est attiré par énormément de choses, par une sorte de confort. Il y a une sorte d'embourgeoisement de la vie. Et c'est peut-être particulièrement vrai pour les écrivains qui n'ont pas été des poètes maudits. Moi, je suis en permanence hanté par le souvenir de Baudelaire. C'est-à-dire que Baudelaire, on l'a repoussé de l'Académie, on l'a trouvé indigne qu'il se présente même à l'Académie, c'était comme une tâche. Et ça, c'est quelque chose qui m'obsède. Ce qui m'obsède, c'est dans ma vie, c'est de me dire que j'ai peut-être rencontré des gens qui était très proche, que je voyais, et au fond, j'étais incapable de voir vraiment quelle était leur œuvre, de juger ce qu'ils étaient. Ça m'est arrivé pour Romain Gary, que j'ai croisé sans le rencontrer, parce que je n'avais pas lu ses livres. Et ça, c'est quelque chose qui m'obsède. C'est de se dire à quel point nous pouvons nous tromper sur les êtres et ne pas voir leur vérité, et notamment leur vérité artistique. Ça, c'est quelque chose qui me... C'est un moment d'effroi. C'est quelque chose qui me... J'ai été critique littéraire, j'ai été... Très souvent, je me suis rendu compte, j'avais pu me tromper sur des... Et ça, c'est une obsession, c'est de me dire, au fond, on est entouré de gens dont peut-être on ne mesure pas à quel point ils avaient une valeur qu'on ne découvrira qu'après leur disparition, ou peut-être qu'on ne découvrira jamais.
Alors, puisque vous parliez de Baudelaire, ça me faisait penser au thème de l'ange gardien. Vous savez, c'est pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil. Moi, il y a un ange gardien peut-être quelque part, donc il peut vous aider.
Ah, ça, je crois énormément aux anges gardiens. Moi, je ne suis... J'ai le sentiment, c'est pourquoi je crois à la vie de l'esprit, je crois à une... C'est qu'il me semble que, bizarrement, alors je ne sais pas si c'est l'amour de la mère qui continue comme une sorte de réverbération après la mort, mais je crois à cette présence. J'ai le sentiment qu'une vie, au fond, il y a des vies qui sont vraiment déshéritées dans la mesure où il n'y a que la souffrance, il n'y a jamais ces moments où on a pu apporter une chance. Voilà. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup de chance. Et au fond, cette chance, peut-être, c'est de pouvoir... Ce que je disais au début de votre émission, c'est que toutes ces passions, qui sont des passions vraiment qui me font vivre, eh bien, d'avoir réussi à vivre de ces passions.
Et à les ordonner à travers la littérature.
Voilà, les ordonner à travers cette chose, parce que je suis comme quelqu'un de complètement désordonné, quelqu'un qui va dans tous les sens, qui a des centres d'intérêt vraiment qui sont contradictoires. Et d'une certaine façon, tout s'est ordonné parce qu'il y a eu cette, cette possibilité de tout faire passer par la littérature.
Tout à l'heure, vous évoquiez donc ces pêcheurs de Noirmoutier chez lesquels vous aviez vécu pendant 3 ans, quand vous étiez enfant. Donc, ni eau, ni électricité, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Lorsque vous pensez à eux aujourd'hui, du haut de l'Académie française, quelle est l'idée qui vous vient à l'esprit ?
Ben, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est cette forme d'injustice qui fait qu'ils ne pouvaient pas, ils ne lisaient pas, ils ne pouvaient pas écrire. Donc, si j'avais été leur enfant, jamais je ne serais devenu écrivain. Donc, c'est cette élection mystérieuse du destin qui fait qu'il vous place dans une catégorie sociale ou dans une autre, et qui est aussi ce qui me à travers la prostitution, qui touche seulement une catégorie sociale, c'est les catégories défavorisées. Ça ne touche pas la grande bourgeoisie. Et c'est cette question, voilà, de se dire, au fond, quelle est ma part de liberté ? Qu'est-ce que je dois à moi-même ? Et qu'est-ce que je dois à cette chance qui a été de naître dans un milieu d'artistes, plutôt que dans un milieu de pêcheurs, de Noirmoutier, plutôt que dans le milieu qui aurait pu m'entraîner dans la prostitution. Vous voyez, il y a ce mystère de la destinée qui était extraordinaire, et c'est une réflexion qui, moi, me trouble et fait que ça entraîne une interrogation morale extrêmement vaste.
Mais nous resterons sur cette interrogation essentielle, peut-être l'interrogation primordiale. Ainsi s'achève donc cet essentiel avec Jean-Marie Roy. Jean-Marie Roy, merci, et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.